France Culture.
Il ne savait pas si c'était possible ou impossible, c'était, et ça le menaçait. Philippe José Farmer, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre sur qui s'abattra ce soir la grande menace, le péril extrême de toutes les forces conjuguées de la nuit et des gouffres. Nous ouvrions en effet cette boîte de Pandore qu'est le livre « Détective des ténèbres » de François Ducos. Superbe volume et somme définitive, paru aux éditions « Le visage vert », une somme sur les enquêteurs de l'au-delà et autres limiers de l'abîme. Sur tous ceux, qu'ils soient professeurs, médiums, détectives ou aventuriers, qui osèrent à s'affronter aux forces de l'au-delà, qu'elles soient machinations ou authentiques puissantes. Chronique en second temps d'émission signée Stéphane Duménildo sur l'hôpital et ses fantômes de Lars von Trier, récemment sorti en Blu-ray. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre sur le plateau duquel règne ce soir une forte émotion, puisque l'émission que nous allons faire ce soir, bien ma foi, cela fait 30 ans qu'on attend de pouvoir la réaliser et la produire. Et c'est le grand soir qui est arrivé. Bonsoir François Ducos.
Merci. Bonsoir à tous.
Bienvenue à Mauvais genre où l'on vous attend depuis 30 ans. Je veux dire par là que quand cette émission a commencé, allez, au siècle dernier, 98-99, on m'avait dit, ah, sachant que j'aimais évidemment particulièrement Harry Dickson et tout ce qui est détective des ténèbres, ah, mais il y a quelqu'un qui travaille sur le sujet, qui sait tout et qui va sortir un livre. Et je vous avais appelé au téléphone.
C'est exact.
Et on m'avait dit, oui, j'y travaille. Et ben, voyez, on tient parole. Vous aussi.
En fait, tout a débuté il y a 44 ans, exactement.
44 ans.
En 1982, avec l'apparition dans le fanzine Le Fulmar d'une étude en deux parties qui s'appelait Les détectives de l'incroyable et pas encore des ténèbres.
Donc ça, c'était le coup d'envoi de votre.
C'était une ébauche.
C'était une ébauche.
Oui, c'était une ébauche. Mais tout cela était l'aboutissement, malgré tout, d'une passion d'un adolescent des années 1960 et d'un jeune homme ensuite, qui reposait sur plusieurs choses. La découverte du chien des Baskerville aux éditions J'ai lu, avec une superbe couverture de Benvenuti. Et ça, ça a été un déclencheur.
Et de ce jour-là, vous étiez converti.
Pas totalement.
À la détection des ténèbres.
Mais tous les jeudis après-midi, les adolescents des années 1960 pouvaient aller au cinéma. Oui. Et on y passait régulièrement des films allemands de terreur surnaturelle. C'est ce qu'on appelait les Wallace.
Edgar Wallace, voilà. Car, on va en parler.
Oui, car c'était basé sur les romans très désuets à l'époque d'Edgar Wallace, qui était décédé il y a des années. Et c'était dans un Londres fantasmatique et qui était ténébreux absolument.
Alors n'en dites pas plus, on sait dorénavant d'où vous vient cette passion et évidemment ce à quoi vous avez abouti, c'est-à-dire ce livre. Alors il y a des livres qui sont d'emblée des classiques, hein, le dictionnaire de l'utopie de Versin, les livres de Joseph Alterac et Coste, Guy Coste sur les terres creuses ou les rétrofictions. Et là aussi, bah, le Ducos, c'est d'emblée un classique. Ça fait quoi ? Bonsoir Elisabeth Villaine,
sous vous êtes donc
des Chevilles Ouvrières, éditrice au Visage Vert. Alors, Visage Vert, c'est à la fois une revue, c'est la grande revue française de littérature fantastique et d'érudition fantastique. Et là également, il y a vous publiez, et c'est votre premier beau livre.
Exactement.
C'est un beau livre.
Oui, c'est, comme vous le dites, c'est le premier beau livre. C'était le test. Le sujet des détectives a été abordé au Visage Vert dans la revue dès 2008. Il y a eu 5 livraisons différentes. Concernant Sardum Notal, Nick Carter, etc. Et ça a constitué déjà une ébauche de ce qu'allait être le livre.
D'accord, donc il y avait déjà des roulements de tambour qui annonçaient la levée de rideau que nous fêtons ce soir. Bonsoir Jean-Luc Rivera.
Bonsoir François.
Alors Jean-Luc Rivera a amené son exemplaire, parce que le livre n'est pas tiré à tant d'exemplaires que ça, donc un conseil, si vous êtes touché par cette passion ou par par cette frénésie de la détection des ténèbres, dépêchez-vous. Mais le vôtre est littéralement hérissé de petites notes, de petits post-it.
Oui, c'est les quelques essentiels absolus à acheter de suite.
Voilà, oui.
C'est assez effrayant.
Vous possédez bien évidemment tous les livres dans la couverture. Les couvertures sont produites dans...
Évidemment.
Bien évidemment. Question inutile. Bonsoir, Fleur Hopkins.
Bonsoir, François.
Alors vous, c'est pareil, mais vous, c'est peut-être une génération après qui vous a... Est-ce que le concept, d'ailleurs, de détective des ténèbres vous parle de tant que ça?
Alors moi, forcément, je l'ai croisé pendant la thèse, François, quand je travaillais sur la science-fiction ancienne.
Donc, le merveilleux scientifique,
c'était
certes.
C'était plutôt détective de l'occulte. J'appelais plutôt ça comme ça, mais je me souviens très bien avoir couru la Bilipo et la BNF en consultant tous les articles sur le sujet. Donc je suis ravie que la somme soit déjà publiée. Et si, moi, j'ai grandi avec les détectives du bizarre, parce que moi, je suis née en 90, et c'était le grand moment
Vous êtes jeune.
Merci, François. C'était le grand moment des enquêteurs du mystère, avec des séries comme Spooksville, Les Twists, Scooby-Doo, Eerie Indiana. Donc, à l'époque, on n'appelait pas ça détective des ténèbres, mais des bandes d'amis qui enquêtent sur des choses farfelues et bizarres dans une petite ville d'apparence normale, mais qui, en fait, cache des choses étranges. Et ça, c'était vraiment mon petit coup de cœur quand j'étais petite, ouais.
Parfait. Et Stéphane Duménildo, lui aussi, très détective des ténèbres.
Ah oui, moi j'ai appris à lire avec Fantomette, donc j'imagine qu'on pourrait l'associer peut-être à une détective, même si c'est plutôt une super-héroïne.
Enfin, après, aujourd'hui, vous allez nous parler non plus de Fantomette, mais de Lars von Trier et de Kingdom, l'hôpital et ses fantômes.
Oui, avec
Potemkin réédite somptueusement en Blu-ray.
Voilà, qu'on peut rattacher au thème de l'émission de ce soir, puisque nous aurons deux charmantes vieilles dames médiums, Madame Drouze et Karen, qui vont enquêter donc sur les mystères d'un hôpital hanté au Danemark.
Très bien, et puis nous allons évidemment lire des extraits du livre de François Ducos. Je rappelle bien sûr que si vous voulez continuer le plaisir de la découverte des mauvais gens, eh bien il y a une page Facebook et puis il y a un Instagram, Mauvais Genre FC, qu'il faut évidemment aller voir si vous voulez creuser la question. Maintenant la parole est à Laurent Polleret, à qui j'ai dit, ma foi, laissez-vous aller, plongez dans les ténèbres. François Ducos, avant de s'intéresser au détective des ténèbres, on pourrait peut-être s'intéresser au détective que vous avez été. Ce qui est quand même fascinant, c'est que vous aviez donc une sorte de, je ne veux pas dire de double vie, mais que durant la journée, vous vous intéressiez, ma foi, à des enquêtes, tout ce qu'il y a de, je dirais, de naturel, de réel, d'authentique. Et puis le soir, vous rejoignez vos comparses dans les ténèbres. Il y a quand même une sorte d'articulation, de face-à-face intéressant, François Ducos.
Oui, mais les enquêteurs des ténèbres, ce sont des enquêteurs qui agissent dans une réalité que l'on pense connaître, mais qui est corrompue, biaisée et décalée. Alors que le jour, c'est le réel.
Alors dites-nous ce que vous faisiez le jour.
Le réel le plus prosaïque.
Vous étiez donc inspecteur divisionnaire?
Oui, inspecteur divisionnaire et ce qu'on appelle un procédurier, c'est-à-dire je faisais les interrogatoires.
Et vous avez rencontré, il vous est arrivé de croiser des figures qui puissent évoquer un petit peu, je dirais, la...
Hélas, non.
Non.
Et non.
Rien que des gens prosaïques, concrets, cupides, violents.
Non, parce que le monde des détectives des ténèbres, c'est un monde où surgissent des éléments bizarres et surnaturels dans un quotidien décalé, en fait. Et ce n'est pas celui de la réalité.
C'est pas celui que vous avez fréquenté
non,
pendant des,
tout,
des décennies. Jean-Luc Rivera.
Donc vous n'avez pas eu la chance, comme par exemple le commandant Tisané, parce que vous citez à un moment...
Cher à Philippe Baudouin.
Donc vous n'avez jamais rencontré un cas de maison hantée ou...
Je n'ai jamais rencontré de maison hantée. Et ce qui m'a le plus interrogé avec le commandant Tisané, c'est comment un gendarme qui appartient donc au monde militaire a pu exercer toutes ses activités sans qu'on ne lui dise jamais rien. Ça, c'est un mystère pour moi. Et il a fait une longue carrière, et apparemment, le bizarre lui tombait dessus à tout moment.
On a fait d'ailleurs une émission entière avec Philippe Baudouin sur le commandant Tisané. Fleur Hopkins.
Ouais, j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Moi, je me posais la question, puisque vous avez une acquaintance certaine avec les personnages que vous avez étudiés, est-ce que ce qui vous plaît, c'est justement qu'ils sont moins procéduriers que vous, en quelque sorte, et qu'ils sont un peu des pourfendeurs de l'impossible, de l'incertain? Qu'est-ce qui vous a tant plu, en fait, dans ces figures qui sont à la lisière entre le réel et l'irréel, le possible et l'impossible?
Eh bien, c'est le fait que l'on passe le pont, en fait. D'un côté, il y a le réel, on passe le pont et on arrive, comme Alice avec son terrier, dans un monde qui est fantasmatique. C'est ça qui est intéressant. C'est pouvoir laisser de côté le réel et se dire, bon, maintenant, on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Et tous ces personnages sont en fait de l'autre côté du pont. Ils ne sont pas avec nous.
Tout en laissant le doute persister. Ça, vous le dites bien, que pour certains romans, le doute persiste. On ne sait pas si véritablement c'était une entité surnaturelle ou quelque chose qui dépasse l'entendement.
C'est la subtilité, là. Oui, oui. D'ailleurs, cette subtilité où il y a du doute est beaucoup plus intéressante que celle où on vous assène du surnaturel et puis il n'y a plus rien à dire à la fin, puisque c'est surnaturel. Tandis que quand on ne sait pas, quand on imagine, ben là, oui, c'est le plaisir qui arrive.
Stéphane Duménildo.
Oui, il y a une partie sur la marque du vampire de Todd Browning, qui justement est dans cette ambiguïté, puisqu'on se rend compte à la fin que ce sont des acteurs qui jouaient des vampires dans le cadre d'une enquête policière. Mais alors pourquoi se conduisent-ils comme des vampires lorsqu'ils sont seuls dans leur château et qu'ils arrivent à sauter d'un escalier avec des ailes de chauve-souris? Donc ils se conduisent comme des vampires, mais à la fin, ce sont des acteurs. Donc il y a toujours ce drôle de cette zone floue, en fait.
Oui, complètement. D'ailleurs, c'est le terme. Le monde des ténèbres, c'est un monde qui est flou, complètement, et qui laisse une grande place à l'imagination du lecteur, de celui qui va regarder un film et tout ça.
Alors, Elisabeth Vilains, c'est ce qu'on appelle catégorie beau livre, effectivement, avec une magnifique couverture. De qui est la couverture, d'ailleurs? Qui ouvre des yeux aussi énormes, là, comme ça?
On n'en sait rien.
Ah, ben voilà une couverture digne de ce nom.
On a voulu rester dans le mystère jusqu'au bout, oui.
Alors c'est un livre qui est à la fois une sorte de grande parade, puisque les personnages défilent, c'est en même temps une encyclopédie, il y a des bibliographies absolument sidérantes, tout est illustré de part et d'autre sur les marges du livre, donc on voit un peu la bibliothèque de François Ducos avec des fascicules parus il y a un siècle, et puis des textes beaucoup plus édités beaucoup plus récemment, comme ceux de Terre de Brume, puisque vous avez donc publié plusieurs anthologie et travailler avec Gérard Dole aux éditions Terre de Brume. Là, c'est quand même un ouvrage à fabriquer pour un éditeur très impressionnant.
Oui, je dirais que c'est à la fois c'est l'aboutissement d'années de travail. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le sujet des détectives vient de loin. Et c'était pour Xavier Legrand-Ferronnière, qui est donc le fondateur des, voilà, des éditions Le Visage Vert et de la Roche. Oui, on le salue. C'était vraiment un test pour voir si on arriverait à faire un beau livre qui n'est pas du tout notre créneau à l'origine, même si on a toujours été attentif à illustrer la revue depuis le début. Hein. Donc là, évidemment, ce qui était formidable, c'est qu'on pouvait, en offset, présenter des reproductions d'une excellente qualité de toutes ces couvertures qui sont extrêmement fantasmatiques et colorées.
Oui, puisqu'il y a trois niveaux de texte, on peut dire, dans le livre de François Ducos. Il y a à la fois, brusquement, des moments de lyrisme, comme ça, oui, on sent que la, le phénomène se apparaît, comme ça, sur scène. Il y a des bibliographies, j'en parlais, qui sont très, très pointilleuses, qui accompagnent le discours. Et puis, il y a une description, et puis des révélations sur les auteurs, les démiurges, ou les pères et les mères, des détectives des ténèbres, personnages qui sont la plupart du temps inconnus. Et sur les détectives eux-mêmes, où là, on a véritablement une sorte de presque d'anthropologie, oui, de sociologie du détective des ténèbres.
Tout à fait. Et donc François Ducos a tenu à bien baliser le domaine du détective des ténèbres en expliquant pourquoi il excluait certains personnages. Ah oui, donc je n'en dis pas plus.
Voilà, on va parler de la, évidemment, la définition, qu'est-ce que c'est qu'un détective des ténèbres. Mais avant cela, évidemment, nous allons nous immerger dans le fog londonien, qui est le bouillon de culture et la soupe originelle d'où sortent tous ces maléfices et toutes ces fantasmagories. À Londres, après minuit, s'anime l'écran démoniaque. C'est le moment fatidique où le vengeur des Wallace enfuit des studios berlinois par défier Scotland Yard, livrant aux passants attardés des têtes humaines dans des cartons à chapeau. Au volant de son antique berline, réduite à deux phares éblouissants, il croise peut-être l'implacable Grenouille, voleur nocturne, meurtrier insaisissable, insoupçonnable, revêtu d'une toge noire, surmonté du masque répugnant aux pointes des yeux globuleux de batracien. Ce Londres en noir et blanc, factice et convenu mais tellement efficace, est un lieu surréel dans lequel de rares figurants se voient accoutrés d'un chapeau melon et d'un parapluie. Voilà bien une ère de démence appartenant à un monde en suspens, avec un décor si dépouillé qu'il ne connaît que le fog, les pavés humides, la contre-plongée de Tower Bridge et le lamento grave de Big Ben. Vidé de la plupart de ses habitants normaux, la ville-théâtre est livrée à la folie d'assassins encagoulés, rivalisant dans le crime institutionnel avec des coupeurs de tête, des hommes-singes, des lanceurs de couteaux, des tueurs atteints de cécité. Tous ces personnages proviennent d'une réalité décalée où il semble tout à fait normal d'oxyre son prochain à l'aide d'un harpon, de flèches empoisonnées, si ce n'est d'un fouet armé de billes de plomb. Imperturbable, car ainsi en va-t-il de cet univers, les inspecteurs Heinz Drache et Joachim Fussberger s'efforcent tant bien que mal de contenir ce trop-plein de fantaisie comme Alice. Sans le moindre doute, nous avons traversé le miroir et pénétré dans le monde extraordinaire du détective des ténèbres. Voilà les premières lignes, et ça démarre en fanfare, comme vous le pouvez le noter, des détectives des ténèbres de notre invité de ce soir, François Ducos, pour cette somme désormais classique parue aux éditions, ça vient de paraître, aux éditions Le Visage Vert. Alors on va commencer, Jean-Luc Rivera, sur la définition, parce qu'on est des gens méthodiques et sérieux. On a beau avoir mauvais genre, on a quand même un discours de la méthode. Alors qu'est-ce qu'un détective des ténèbres, selon François Ducos? Allez-y.
Alors, En fait,
Inspecteur Rivera.
En fait, il y a une telle richesse de personnages, mais François Ducos réussit, il me corrigera si je me suis trompé, mais il réussit à dégager, disons, deux grands types de détectives. Il y a d'une part ceux qui sont doués eux-mêmes, dotés eux-mêmes de certains pouvoirs surnaturels, des sortes de détectives psychiques, voilà, et qui donc utilisent leurs propres pouvoirs. Et puis, il y a ceux qui sont, à proprement parler, des détectives de l'occulte, c'est-à-dire des gens qui ont étudié pour la plupart les techniques de l'occultisme, de la magie, et qui les mettent en œuvre parce que, lorsque leurs clients pensent être confrontés à des événements surnaturels, quelle que soit la nature de ces événements. Et même dans certains cas, ils peuvent utiliser ce qui est à l'époque surtout la science moderne. Moi, je pense à Carnacki qui utilise des pentacles lumineux électriques, etc. Donc, hein, François Ducos, c'est grosso modo les deux grands types.
C'est tout à fait ça.
François Ducos.
Les détectives psychiques et les détectives de l'occulte. Parfois, les détectives psychiques sont qualifiés de ténébreux, si on peut dire, uniquement par leur pouvoir. Et ils n'œuvrent pas forcément dans un contexte surnaturel. C'est grâce à des pouvoirs, la voyance, ceci ou cela, qu'ils vont résoudre des affaires. Alors que le détective de l'occulte est un détective sans pouvoir, qui a des moyens, par contre, des moyens techniques pour lutter contre le surnaturel. Et voilà. Et les deux font les détectives des ténèbres.
Fleur Hopkins.
Et vous faites remonter cette histoire au docteur K, de Théa Hoffmann, qu'on considère souvent comme le grand-père du fantastique. Pourquoi cela? Pourquoi ce serait lui le prototype
du détective
de l'occulte?
Alors ça, c'est le début 1817.
Mmh. Oui. Déjà, la plupart des gens pensent que le premier détective des ténèbres est le docteur Hesselius de Sheridan Le Fanu.
Docteur irlandais.
Donc, il serait anglo-saxon, ce qui est complètement faux. Le premier, c'est effectivement le docteur K qui apparaît dans la maison solitaire, non?
Oui, absolument.
Dans la maison solitaire d'Hoffmann.
Maison déserte, oui.
Hoffmann, qui, entre nous, a pratiquement tout inventé en ce qui concerne le fantastique. Il y a tout dans l'histoire du docteur K. Il a pas forcément des pouvoirs, mais c'est un détective psychique quand même. Hein. Donc, mais par contre, il va rester un doute jusqu'à la fin pour savoir si le fantastique est réel ou pas. Il est le vrai, Hoffmann est le vrai créateur du détective des ténèbres.
Oui, c'est le début donc de des dates qui bornent votre réflexion sur l'histoire, François Ducos. 1817, donc Hoffmann, effectivement, la naissance. Alors ça aurait pu être le roman noir anglais, anglo-irlandais, mais il n'y a pas de détective des ténèbres chez les anglo-irlandais. On est tous, on croule sous la, on est victime plus qu'autre chose. Par contre, je veux dire, l'université allemande, l'idéalisme allemand peut générer, comme ça, Elisabeth Vilains peut générer des figures magistrales et analytiques, parce que là, il s'agit d'analyser.
C'est certain.
Oui. Alors, autre élément, justement, cette idée, il y a donc dans ce livre un index, deux ou trois index, dont on a un index des personnages. Il y a deux index, un index des personnages, et donc on peut voir déjà à qui on a affaire, puisque il y a beaucoup de personnages notés professeurs et beaucoup de personnages notés docteurs. Donc c'est quand même le face-à-face entre, je dirais, un savoir scientifique rationnel, maîtrisé, qu'on enseigne, parce que c'est souvent des universitaires, des médecins, ça peut être bon. Bah, n'oublions pas Conan Doyle, hein, qui tirait tout du cours de son professeur d'Édimbourg. Donc, il y a beaucoup de docteurs, il y a quelques phaseurs, il y a quelques prêtres aussi. On est quand même dans une espèce de face-à-face entre des institutions et puis des puissances innommables, innommées. François Ducos.
Oui, mais pendant presque tout le XIXe siècle, le détective des ténèbres est un scientifique, très souvent des médecins, parce qu'ils apportaient une caution, justement, pour expliquer les apparences du surnaturel. Et la plupart du temps, ce sont des briseurs de hantises. C'est-à-dire, on arrive à la fin et on s'aperçoit que c'est une supercherie. Et cela va durer presque tout le 19e siècle, parce que chez Sheridan Le Fanu, eh bien, il y a toujours une explication à la fin. Une explication qui est d'autant plus, comment dire, étonnante que celui qui la porte n'a pas du tout assisté aux événements. Les événements lui ont été rapportés et il les analyse. Et il dit, voilà ce que j'en pense. Par exemple, le thé vert, qui est un classique du docteur Hesselius. Et à la fin, toute cette histoire qui avait pris des proportions énormes est expliquée d'une façon tellement simpliste, il faut le dire, en disant, oui, il avait pris trop de thé vert. Et alors...
Oui, c'est un peu court, jeune homme. Comme
on Mais dit. En fait, ce qui est intéressant... C'est ce que Borges avait, je crois, expliqué à propos de Father Brown. Il dit, vous savez, les histoires de Father Brown, il ne faut pas tenir compte de l'explication finale. L'essentiel, c'est dans la façon d'y arriver à cette explication. C'est le mystère surnaturel. Et dans les dernières lignes, on dit, bon non... Ça n'avait rien de surnaturel. Borges dit, ne tenez pas compte de ces dernières lignes. Et tout le 19e siècle, c'est ça, en fait.
Oui, et ça s'accentuera à la fin avec la naissance de la clinique, de la psychiatrie, la salpêtrière, et puis toutes les espèces de noces étranges dont on en parlait souvent à mauvais genre, entre les milieux spirites, parapsychiques, voilà. Et puis, justement, la littérature, Jean-Luc Rivera.
Mais justement, il me semble que ces explications naturelles qui sont données à la fin, la littérature ne fait que refléter cet esprit scientiste du 19e siècle, selon lequel il n'y a rien de surnaturel, il n'y a que des causes, des lois encore inconnues. Mais on retrouvera toujours une cause naturelle à la fin, simplement on ne la connaît pas encore. Il me semble que c'est vraiment le reflet de la pensée du scientiste du 19e.
Oui, mais...
Pas du cause.
Lorsqu'on va passer au siècle suivant, il va y avoir Carnacki quand même. Et là, à l'exception près, le surnaturel est avéré. Et donc... Il faudra à ces détectives inventer des moyens pour s'en défaire. Parce qu'avant, une explication suffisait, on pouvait soigner les gens, parfois peut-être les enfermer en définitive. Tandis que là, non. Avec Carnacki et Oxon, le surnaturel est avéré. Il y a, je crois, une seule histoire de briseur de hantise. C'est-à-dire, Carnacki, il est obligé de reconnaître que c'était une supercherie. Donc, Carnacki, c'est un passage important. On va avoir le véritable détective de l'occulte. Parce que ce n'était pas vraiment des détectives de l'occulte avant.
C'est ce que Fleur Hopkins appelle joliment les pourfendeurs de l'incertain. Alors, 1817, Hoffman, c'est le coup d'envoi. Ce qui correspond effectivement dans l'histoire un petit peu des mentalités scientifiques et littéraires au romantisme et rapport à la science. Et puis, ça s'arrête en 1980. Vous auriez pu continuer, j'imagine, bien après. Mais pourquoi 1980 ?
Parce que c'est la fin d'un cycle, tout simplement.
Dites-nous tout.
On peut dire que à partir des années 50 jusqu'à 1980, on est dans la redite. C'est-à-dire, on a créé le détective des ténèbres, il fait ci, il fait ça et tout, et chacun redit les mêmes choses. Et à partir de 1980, ça m'a ennuyé cette histoire-là. Ça fait que ma conclusion, en fait, n'en est pas vraiment une. Parce que j'ai voulu donner quelques pistes pour montrer ce qui va se passer après. Alors là, ça va s'intellectualiser, cette histoire-là. On va être dans une sophistication du détective des ténèbres. Avec des BD comme Dylan Dog.
Oui.
Oui, oui, on va en parler avec Stéphane Dumenildo, oui, oui.
Oui, oui, et puis il va y avoir aussi des détectives qui sont, comment pourrait-on dire, pas psychiques du tout, qui sont un peu malades, en fait, qui ont des doubles personnalités, ce qui n'existait pas auparavant. Ou par exemple, vous avez un détective qui va enquêter dans ses propres rêves. Ce que l'on voit déjà dans les bandes dessinées de Dylan Dog, où il y a plein de niveaux comme ça. Vous avez même le dessinateur qui peut intervenir en personne comme un personnage en disant « non, là ça va pas ». Et là, oui, c'est ce qui va se passer donc après 1980 est très différent. Et puis il va y avoir aussi un développement après 1980 qui avait juste été amorcé auparavant, c'est le détective historique, c'est-à-dire des personnages de notre histoire auxquels on va faire vivre des aventures de détectives des ténèbres. Et Lovecraft en est un.
Hopkins.
Oui, en vous écoutant, je me disais aussi que vous parlez aussi de renouveau dans votre ouvrage pour les années 1980 et vous parlez évidemment d'X-Files, c'est sûr que c'est vraiment un point de passage essentiel. Je me disais aussi qu'un des éléments de renouveau, c'était peut-être la relation de dialectique que va beaucoup travailler X-Files, cette idée qu'on a un croyant qui est Mulder et une incrédule précisément qui est Scully, puisqu'on sait qu'elle ne regarde jamais quand il faut regarder et elle ne cesse de répéter, tant que je n'ai pas la preuve, je ne croirai pas. Et c'est vraiment ce qui réapparaît dans pas mal de séries contemporaines type Fringe aussi, type Evil. Evil, pour ceux qui ne la connaissent pas parmi nos auditeurs, c'est un prêtre qui s'associe à une psychologue et elle ne cesse de rationaliser en disant « mais non, ce ne peuvent pas être des démons ». Et lui dit « mais si, c'est la vérité, ce sont des démons ». Donc ça me semble assez intéressant de voir qu'effectivement, on a une évolution. Vous disiez aussi très justement dans la conclusion de votre ouvrage qu'on passe du régime du surnaturel au réel aussi à la question du complot, qui évidemment innerve complètement X-Files. Et en vous écoutant, je me posais aussi la question du florissement en fait de cette thématique pour les enfants, parce que ça marche très très fort du côté des enfants. On a évidemment les aventures fantastiques de Sacré-Cœur, d'Amélie Sarn et de Laurent Audouin. On a la section frisson de Riri, Fifi et Loulou, où ils vont aller enquêter sur des fantômes. C'est très très bien, je recommande à tout le monde. Donc ça marche très fort pour les enfants, et je voulais bien vous entendre là-dessus. Pourquoi ça marche fort avec les enfants, les détectives des ténèbres et de l'occulte?
Je ne sais pas pourquoi ça marche, mais par contre, je peux vous apporter un témoignage. Scooby-Doo, c'est pas du tout ma génération. Mais j'ai vu les premiers épisodes de Scooby-Doo avec mon fils, qui aujourd'hui est un homme très adulte, mais tous les dimanches après-midi, encore maintenant, je vois des épisodes de Scooby-Doo avec mes deux petites filles, Lola et Loeva, qui adorent ce quatuor d'adolescents, et le chien, bien entendu. Donc ça fait que Scooby-Doo, je le vois encore.
Bien, alors, on en est rendu à parler de Scooby-Doo, de Riri, Fifi et Loulou. Il est temps de redonner un peu d'ombre et d'impossible avec Harry Dickson. Mr. Earl, très pâle, s'est retourné vers Harry Dickson. « Et Miss London, murmure-t-il tout bas. » « Patience, » répond le détective avec un bizarre sourire. « Je crois que Mr. Crick-Crock vient de signer cette prouesse un peu clairement, un peu trop clairement, pour sa personnalité. Laissons ces jolies personnes dormir. Je présume qu'elles n'auront plus rien à nous apprendre quand elles s'éveilleront. « Puissiez-vous dire vrai ?» s'exclame Mr. Earl. « Mais achevez donc votre phrase, interrompue, sœur, un peu de mots. Crick-Crock me semble bien plus être un redresseur de tort qu'un vil bandit. » « Ceci est concluant, Mr. Earl, et cela nous le livrera bientôt. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Si Pedro Suarez entre ici, c'est-à-dire s'il vient ici vivant, nous l'arrêterons sur le champ, car nous tiendrons Crick-Crock. Alors Suarez pourra venir ici autrement que vivant ?» s'écria Mr. Earl. « Certainement. Ah, j'entends une auto. » Un moteur s'arrêta, non devant l'auberge, mais à quelque distance. Harry Dickson se roua vers la porte. « Venez, Mr. Earl, et vous aussi, Goodfield. Inutile de dormir encore, mesdames, personne ne viendra. Personne ne viendra plus ici. À 50 pas du Poisson d'Argent, on voyait les phares d'une auto stoppée au bord du trottoir. « Inutile de tirer votre revolver, Goodfield », déclara Dixon tout en courant. « Crick Croc ne nous envoie pas un vivant, soyez-en certains. C'est bien pour cela que l'auto se trouve arrêtée à quelque distance. »
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà l'extrait de la fin de Crick Croc, le mort en habit d'Harry Dixon, qui est un personnage absolument fondamental de la saga des détectives des ténèbres. Alors, évidemment, chacun peut prélever dans la somme de François Ducos son détective fétiche ou son enquêteur préféré. Moi, j'ai bien sûr Harry Dixon, mais enfin, ça fait près de 60 ans que je lis du Harry Dixon, donc après tout, rien de neuf. Quels sont un petit peu les personnages sur cette énorme masse colossale de personnages et d'auteurs que vous nous révélez, François Ducos? Quels sont, mettons, les 5 ou 6 essentiels, ceux qui marquent une naissance, un tournant, une évolution, une mutation? Comme il y a Holmes, comme il y a Dupin, comme il y a, je sais pas, même James Bond ou autre.
Bond, pour ce qui est le détective des ténèbres, c'est Carnacki.
Alors Carnacki, c'est un personnage donc de
Hodgson.
De William Hope Hodgson, connu pour notamment ses chefs-d'œuvre du fantastique maritime.
Complètement. Alors que le docteur Hesselius, c'est la fin du 19e siècle, c'est vous savez, les savants qui essaient d'expliquer le surnaturel. Voilà. Non, Hodgson, c'est un tournant. On a vraiment un détective des ténèbres. Mais pour en revenir à Harry Dixon, ce n'est pas un détective de l'occulte du tout. C'est un briseur de hantise.
Un pourfendeur de l'incertain.
Un briseur de hantise qui va fournir la plupart du temps une explication rationnelle qui ne tient pas debout. Et qui laisse au lecteur une incertitude absolue. Et c'est ça la magie de Jean Rey, justement. De laisser une ouverture pour passer le pont, encore une fois de plus. Voilà.
Le pont traversé. Donc effectivement, Jean-Luc Rivera, il y a tout, on va pas le citer des noms, il y a des dizaines, des centaines de noms. Alors, évidemment, il y a les grands noms emblématiques comme Harry Dixon, qui a droit à un chapitre entier, très très étonnant d'ailleurs. Il y a Nick Carter, bien évidemment, mais on a l'impression que tous les grands fantastiqueurs anglo-irlandais, ils vont de leur détective des ténèbres, Sheridan Le Fanu, Arthur McKen, Elgarnon Blackwood, William Hope Hodgson, chacun a un peu l'obligation de fournir son propre personnage.
Ils sont pour beaucoup d'origine anglo-saxonne, mais ce qu'il y a d'intéressant, et j'avoue que c'est l'un de mes détectives favoris, c'est Jules de Grandin de Shibbery Queen. Jules de Grandin représente la sophistication française, gallique, comme il dirait, dans la littérature de pulps américaine. Et Jules de Grandin, c'est vraiment le détective qui a des connaissances encyclopédiques en manière d'occultisme, de surnaturel, etc. Et qui est donc capable de mener des enquêtes et de trouver, de débarrasser les gens qui viennent le consulter des hantises, des créatures surnaturelles qui les embêtent. Et tout ça émaillé d'expressions entre guillemets françaises, dont la plus célèbre est par la barbe d'un bouc vert. Donc c'est très...
barbe d'un bouc vert.
Et François Ducos nous a fait connaître Jules de Grandin en français.
Oui. Enfin, je ne suis pas le premier à avoir publié du Jules de Grandin, parce que je l'avais fait dans la collection Super Poche dont je m'étais occupé au Fleuve Noir.
Voilà.
Et on avait repris des textes déjà existants et des inédits. Mais ce qui est intéressant avec les pulps, c'est une chose beaucoup moins connue, parce que là, avec Jules de Grandin, on reste quand même dans du classique. C'est ce qu'on appelle la weird menace. Alors la weird menace, c'est une enquête policière, bien entendu, avec beaucoup d'horreur et parfois une touche d'érotisme, un peu de SF et pas mal de fantastiques expliqués. Et ça, là, se passe dans les années 1930. Et les pulps qui ont publié de la Weird Menace ont eu pas mal de soucis avec les autorités, justement. Parce que mélanger l'horreur et l'érotisme, ça faisait beaucoup. Et puis, il y a un autre aspect aussi dans les pulps que j'adore, c'est le Weird Western. Alors, le Weird Western, c'est très simple. Ça mélange le western et le surnaturel.
Alors, c'est un mélange, un cocktail assez rare quand même.
Oui.
Western, c'est réaliste.
Mais par contre, ce qui est le plus amusant, c'est que sans en connaître le terme de weird western, pratiquement tous les Français en ont vu. Ce sont les mystères de l'Ouest.
Wild, Wild West.
Mais voilà, Artemus Gordon. Tout simplement.
Et puis, pardon, je m'excuse, on a découvert aussi le shérif Lee Winters, qui est l'archétype du Weird Western.
C'est lui.
Qui vient des pulps d'avant, juste après-guerre.
De 1952 à 1958.
Flora Hopkins.
C'est vrai que là, on donne l'impression que la somme que vous avez publiée ne porte que sur le corpus anglophone, mais elle révèle aussi tout de même énormément aussi de romanciers français, dont certains, on connaît vaguement les noms, de Jean-Joseph Renaud notamment, Norbert Souvestre, voilà des figures éminentes aussi du genre du détective de l'occulte. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a une rupture thématique ou un fossé entre ces différents corpus? Ce qui me semble souvent ressortir, en tout cas des romanciers français, c'est cet intérêt pour les franges de la science. Et souvent, l'hypnose va être une explication donnée. Là, c'est vrai que je pensais assez spontanément à La vivante épingle de Jean-Joseph Renaud, c'est notre bon détective Christophe Rosès qui pensait enquêter sur une divinité égyptienne qui tuerait un archéologue qui avait volé une épingle. Et en fin de compte, non, c'est l'assistant qui a hypnotisé les gens pour cacher une histoire d'adoption. Enfin, voilà, c'est des manigances familiales et de l'hypnose. Est-ce que ça vous semble, ça, très caractéristique des détectives de l'occulte français, cette idée que à chaque fois, l'explication est plutôt rationalisée, mais elle va du côté du spiritisme, du merveilleux scientifique, de ce genre d'explication? Ou est-ce qu'en fin de compte, c'est très commun au corpus anglophone aussi?
Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai appelé ça les velléités françaises. Ce sont des histoires qui suggèrent le fantastique, qui s'en approchent de très près, puis au dernier moment font volte-face avec une explication rationnelle, souvent très désarmante. Et le spiritisme, c'est la seule chose qui paraît la plus plausible dans toutes ces histoires-là. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait de véritables détectives de l'occulte français à cette époque-là. Le premier véritablement, ça sera au Fleuve Noir, avec Teddy Verano,
Maurice Lima.
Mais avant, ce n'était que des approches. Voilà.
Alors, on parlait du Fleuve Noir. Vous consacrez d'ailleurs au Fleuve Noir un chapitre tout à fait étonnant, notamment à la collection Angoisse. On va écouter d'ailleurs les quelques lignes que vous avez écrites pour dépeindre le Fleuve Noir comme une fête foraine. Créé en 1949, le Fleuve Noir, éditeur à Paris, fut pendant trois glorieuses décennies une sorte de temple païen dédié au plaisir de la littérature populaire. Sa magie et son lustre clinquant, rehaussés d'une pointe d'érotisme, attiraient à la façon des fêtes foraines de Pigalle, où, sur fond musical de bastringues et d'effluves, de pralines au chaudron, s'exhibaient dans les baraques rutilantes de troubles créatures aux origines incertaines, certifiées mi-femme, mi-animal, des illusionnistes aux fracs usés, des stripteaseuses désabusées et quantité d'autres personnages prodigieux. Les romans du Fleuve Noir promettaient beaucoup et décevaient rarement, car jamais avares de tout ce qui peut fasciner, inquiéter, choquer, terrorisé et moustillé. Un fonds de commerce d'ailleurs revendiqué dans des publicités éditoriales. Chaque mois, non sans fébrilité, on guettait en kiosque les volumes aux couvertures parfois naïves quand elles n'étaient pas délicieusement racoleuses avec des pin-up sortant parfois tout droit de rêves exacerbés où la sensualité côtoyait parfois un fantastique qui allait de la simple métaphore à une réalité corrompue.
Voilà les quelques lignes très justes où vous comparez d'ailleurs le grosso modo le fleuve noir à la foire du trône, ce qui n'est pas une mauvaise chose puisque on y trouvait des plaisirs similaires et renouvelés à grande fréquence plusieurs fois par mois. Alors il y a notamment au sein du fleuve noir, on parlait de Teddy Verano, le détective inventé par Maurice Lima, il y a quand même la collection Angoisse. Et la collection Angoisse, c'est le monument dans lequel, justement, le fleuve noir, le monument que le fleuve noir a dédié au fantastique et, on peut dire, au détective de l'occulte.
Complètement. Alors, à ce propos, je tenais à rendre hommage ce soir à Max-André Régent, oui, qui, dans la collection Angoisse, a créé le journaliste Henri Gilles, qui est un enquêteur des ténèbres. Et Max-André Régent est décédé le mois dernier, une semaine après la sortie de mon livre. Il était très, très, très âgé, mais son personnage d'Henri Gilles est moins connu que Teddy Verano, mais il mérite l'attention.
Alors, c'est quand même singulier, cette collection Angoisse, qui visait d'ailleurs un public d'abord surtout féminin. Comme quoi, à l'origine, c'était une cible commerciale, c'était plutôt féminin. Mais on travaillait sur ces... Une collection qui se crée à l'époque où le fantastique cinématographique européen, qu'il soit italien, anglais, redécolle. C'est un petit peu une espèce de moment années 50 où justement quelque chose se crée. Et l'idée, c'est de confronter la société, je dirais, d'après-guerre, société de consommation naissante, société un peu avec des réalités qui, elles, sont totalement archaïques et un peu fantasmatiques.
Ah ben le côté archaïque, vous le trouvez à la collection Anticipation,
ouais,
ça, c'est avec les romans de Jim Igueux, parce que lui a créé le reporter Ted Erickson. Et là, je suis presque gêné d'en parler, parce que tous ces romans me tombaient des mains. Et là, on n'est pas loin de l'art brut. Et vous avez, par exemple, dans une société qu'il décrit très évoluée, vous avez la concierge qui monte l'escalier pour porter un fax. Et ça, c'est tout à fait Jim Igueux. Mais pourtant, il a un détective des ténèbres.
Jean-Luc Rivera, vous avez bien connu Jim Igueux.
Je trouve François Ducos un petit peu dur avec Jim Igueux. Bon, cela dit, je reconnais que je suis plus un fan de certains autres de ces personnages que de celui-là.
Hopkins.
J'avais une question. Est-ce que vous avez pu lire les itérations les plus récentes des Détectives de l'Occulte ? Parce qu'on en trouve encore aujourd'hui, chez Éric Foissier notamment. Alors là, je vais écorcher le nom, Jean-Luc va me taper sur les doigts. Chez Henri Lovenbruck.
Donc c'est très bien, voilà. Pas de problème.
Est-ce que vous avez lu ?
Non.
D'accord. Ce qui explique leur absence.
Non. Ce que je fais actuellement, dans ce qui se publie, c'est surtout les bandes dessinées. En ce moment-ci, les éditions Dupuis, en Belgique, publient des adaptations en bandes dessinées des aventures d'Harry Dickson. Voilà. Mais autrement, les romans, non.
Alors, Stéphane Duménildo, question... On attend depuis la nuit des temps une adaptation cinématographique ou télévisuelle d'Harry Dickson. Il serait peut-être temps, même d'ailleurs, il serait bien que France Culture s'en occupe aussi, puisque après tout, ça ferait une formidable série de feuilletons radiophoniques. On attend Harry Dickson depuis toujours. Est-ce que le détective des ténèbres a fait florès aussi bien dans le cinéma de genre international, entendons-nous, que dans les séries télé ?
Si on parlait, par exemple, en effet, des crimis d'Edgar Wallace, oui, ça c'est vraiment une très grande série. C'est Scotland Yard, germanique, on peut dire, qui va en effet partir à la chasse aux criminels masqués. Mais c'est aussi, comme le dit très bien monsieur, c'est un héritage de Fritz Lang. Aussi du commissaire Lohmann.
Oui, donc là, on a le Mabuse de les Mabuse de Fritz Lang, notamment le deuxième, et même le troisième, et sont vraiment typiques de cette inspiration.
Oui, c'est la matrice, en effet des crimis. Ensuite, au cinéma, moi, je vois pas vraiment de grandes séries qui se consacrerait justement à ces détectives. Moi, bon, il y avait une question aussi que
Indiana Jones.
Est-ce qu'un explorateur
c'est un archéologue de l'occulte.
Bah, c'est si, un dans archéologue de l'occulte, à la fin, quand il lutte si, si. Contre le les Saint nazis. Graal,
ah, le oui, Saint Graal, c'est totalement un archéologue de l'occulte, comme Sidney Fox, comme tout un tas de femmes de cet acabit.
Ou Tomb Raider. Enfin.
Oui, absolument. Mm.
Oui, il y a donc quand même, François Ducose, des figures comme ça qui rejoindraient, mais il n'y a pas eu, à part des séries comme effectivement X-Files, qui est quand même une dominante quand même largement fantastique et occulte, ou même la série Millennium qui a suivi, et puis on va en parler, la série de Lars von Trier, L'Hôpital et ses fantômes. Il n'y a pas eu tant de choses que ça au cinéma et à la télévision.
Non. Dans les séries mais pour en revenir à Harry Dickson, j'ai une anecdote.
Allons-y.
Le réalisateur Jean Rollin,
En
1989, a fait un court essai cinématographique avec l'illustrateur Jean-Michel Nicolet dans le rôle d'Harry Dickson et moi-même dans celui de Monsieur Divoy de la Sûreté Générale. Et sachez que je n'en tire aucune gloire.
Ah bah, j'espère.
Cet essai cinématographique a été présenté à la télévision française, mais apparemment, ça n'a pas été retenu, bien entendu.
Mais François Ducose, avec la profession que vous avez exercée pendant longtemps, donc d'inspecteur et de commandant, de commissaire de police, avec cette passion dévorante, cette érudition fleuve concernant les détectives de ténèbres, vous avez eu l'expérience quand même un jour ou l'autre de tout ça? Est-ce qu'un jour l'occulte est venu frapper à votre porte
ou
toquer à vos vitres?
Non,
vous n'avez jamais eu...
Non. Tout était très prosaïque.
Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est un type de personnage qui continue à se développer, à s'amplifier? Est-ce que justement la culture Netflix aide énormément à ce type de... Le détective des ténèbres?
Je n'en suis pas certain.
Je me permets de faire oui de la tête. Absolument, il y a énormément de séries qui existent en fait et qui tirent parti. Je parlais des villes, que ce soit Supernatural, tous les descendants de Buffy contre les vampires en fait vont mixer à la fois les bandes de copains qui enquêtent sur le bizarre et puis cette filiation qui souvent est oubliée. C'est ça qui est assez rigolo. Je suis sûre qu'eux-mêmes ne se revendiquent pas comme étant des séries de détectives de l'occulte, mais on est vraiment dans des prototypes d'enquête sur du paranormal et il s'avère à la fin de l'émission que oui ou non c'est du paranormal. Mais il y en a floré. Vraiment.
Oui, et puis je voudrais souligner aussi
Jean-Luc Rivera.
L'une des grandes découvertes dans cette étude de François Ducose, c'est tout ce domaine germanophone dont nous ignorons totalement l'existence en France, qui manifestement l'Allemagne est le dernier pays où on maintient cette tradition populaire, fasciculaire, avec des choses colossales. Et en France, on n'a jamais eu que quelques romans de Jason Dark avec son détective John Sinclair qui ont été traduits en français. C'est un domaine colossal et totalement inconnu.
Alors, à ce titre, pour John Sinclair, je précise qu'en ce moment-ci, ils ont publié près de 2500 fascicules, soit 46 ans d'existence. Mmh. Et ce qui est amusant, c'est que certains des auteurs de John Sinclair n'étaient pas nés lorsque le personnage a commencé.
François Ducose, Détective des Ténèbres, paru aux éditions Le Visage Vert, un classique désormais, une somme incontournable sur tous les pourfendeurs de l'incertain et les limiers de l'impossible. Voilà le générique de L'Hôpital et ses fantômes de Lars von Trier qui sort chez Potemkin en Blu-ray, Stéphane de Menido.
Oui, nous sommes au centre de Copenhague, au Royaume. C'est un hôpital où vont se déchaîner des terreurs quasi médiévales, car l'hôpital était construit sur des marais méphitiques où venaient travailler des blanchisseuses, des blanchisseurs. Et de plus, une enfant, bossue, a été assassinée par son père adoptif, le docteur Egg Kruger, interprété par qui d'autre ? Udo Kier.
Udo Kier, notre voilà. Maître à tous.
Udo Kier, qui joue un double rôle dans la série, à la fois le docteur Kruger, mais aussi son enfant, qui s'appelle Petit Frère, qui n'est autre que Udo Kier, lui-même, avec un corps de bébé. Alors ça a l'air très étrange à dire comme ça, mais c'est très très graphique hein, quand on voit la série. Et donc dans cet hôpital, deux détectives donc des ténèbres, hein, qui sont deux charmantes vieilles dames médiums qu'on va retrouver dans différentes saisons de la série, mais la première, la plus célèbre, est Madame Drews, qui perçoit qu'il y a donc des esprits, des forces démoniaques. C'est une série d'horreur. Mais c'est aussi une satire de la part de Lars von Trier, de la, des institutions danoises. Alors on peut imaginer que ce sont les institutions culturelles et cinématographiques tenues sur, sans doute par une vieille génération aussi rétrograde et corrompue que les médecins du Kingdom, donc du royaume. Et Lars von Trier va régler ses comptes avec ces institutions et nous dit à la fin de chaque épisode « Préparez-vous à prendre le mal pour le bien ». Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est-à-dire que peut-être que les figures bénéfiques, qui sont ces figures de vieilles dames médiums, finalement font une action, il ne faut pas préserver le royaume. En fait, il faut laisser le royaume, c'est-à-dire cet hôpital aux mains de médecins qui sont tous plus corrompus et plus fous les uns que les autres, il faut le laisser s'effondrer, tout simplement, parce qu'il y a bien quelque chose de pourri au royaume du Danemark, dont l'hôpital est le symbole.
Donc c'est une série en trois saisons.
Trois saisons.
Entre la première, la deuxième et la troisième, il y a 25 ans.
Sur le modèle de Twin Peaks, hein, puisque Lars von Trier a avoué s'être inspiré de Twin Peaks dans la création du Kingdom. Et comme David Lynch, il revient 25 ans plus tard pour mettre un terme à sa série. Et d'ailleurs, je recommande surtout le début hein, de ce Kingdom saison 3 où on a donc une nouvelle médium qui va entrer dans le royaume, dans l'hôpital. Au départ, nous sommes dans une image bleutée, un peu mondialisée, un peu Netflix. Et dès qu'elle arrive à l'intérieur de l'hôpital, elle est plongée dans les lumières orange, jaune, très glauques, qui sont la marque de la série. Donc on rentre vraiment à l'intérieur du royaume des ténèbres.
Et c'est avec Twin Peaks sûrement la plus grande série qui a été faite, justement télévisée, domaine du fantastique, de l'enquête et de l'étrange. Il faut quand même se précipiter vers ce coffret. Merci François Ducos, merci Isabelle Vilains d'avoir été ce soir les invités de Mauvais Genre. On recommande bien évidemment Détective des Ténèbres au visage vert. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Jean-Guilain Mèche, Claire Poissignon, Fleur Hopkins, Le Ferron, Claire-Martin Dugard, Jean-Luc Rivera, Stéphane Duménildo et François Angelier vous remercie d'avoir écouté Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine avec Les Dragons, exposition du Quai Branly.